Bienvenue sur Ils l'ont fait, le nouveau podcast de Digiformag. Je m'appelle Pascal et chaque mois, j'ouvre notre micro à un maker du monde de la formation professionnelle. Il ou elle nous dévoilera l'une de ses réussites en 20 minutes chrono. Une belle manière de vous informer, mais surtout de vous inspirer. Bonne écoute! Eh bien, on est parti. Bah, bienvenue Cédric et puis bah, aussi Nikita et Anastasia qui sont avec nous. Donc, on est quatre aujourd'hui pour ce nouveau podcast de rentrée. Donc, voilà, vous êtes les premiers à inaugurer cette nouvelle saison de Ils l'ont fait. Donc, avant qu'on commence, Cédric, la première question qu'on pose toujours sur le podcast, c'est qu'as-tu réussi à faire ?
J'ai réussi, avec une équipe quand même assez formidable, à monter une école du numérique 100% en langue des signes française. Il y a une école qui accueille des jeunes sourds et qui apprennent ces jeunes sourds à devenir développeurs web ou UX designer.
Une première en France, si je dis
une
pas de bêtises.
Une première en France.
Et en plus, donc, à Lyon quand même, je le note. On est un peu chauvin, on aime bien. Donc.
Exactement.
Ça marche, ok. Alors, avant qu'on parle concrètement de la formation, comment ça se déroule, une partie un peu plus concrète, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'est venu en tête il y a 10 ans pour monter ce projet. Donc, il y a forcément derrière une histoire, ton histoire. Est-ce que tu peux nous expliquer, sans nous retracer toute ta carrière, évidemment, mais expliquer un petit peu pourquoi tu as voulu mener ce projet.
Oui, absolument. Alors, sans retracer toute la carrière, parce que dû à mon grand âge, on n'aurait pas assez de temps. C'est tout simplement une conversation avec une interprète en langue des signes. Moi, à l'époque, je travaillais dans un centre de formation. Puis je ne voyais pas passer beaucoup de sourds. Donc, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, pourquoi les sourds, en fait, ne se forment pas? Et elle me dit, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas. Et s'en est suivi une phase de recherche, de documentation pour trouver la réponse à ce mystère assez incroyable. Et en fait, 3 chiffres, c'est 3% des jeunes sourds qui font des études supérieures, 1% de ces 3% les terminent, 80% des sourds ont des difficultés avec le français, on parle même presque d'illettrisme, et plus de la moitié des personnes sourdes sont inactives. Donc ça, c'est des chiffres vraiment qui frappent. Et puis moi, je trouvais ça juste pas normal. Et du coup, l'idée, ça a été de créer un organisme de formation qui proposerait des contenus de formation accessibles à ces personnes sourdes. Mais alors, comment ? Avec simplement une approche linguistique qui est la langue des signes française.
D'accord.
Parce qu'à l'issue de ces recherches, en fait, ce qui en est sorti, pourquoi en fait ils ne se forment pas, c'est que le dispositif n'est pas adapté. Il n'est pas adapté parce que c'est des personnes sourdes, elles ne parlent pas, elles n'entendent pas, donc du coup c'est quand même assez.
Et bien justement sur ce public, pour que tout le monde soit un peu au même niveau, comment tu définis aujourd'hui toi une personne sourde? Parce que je pense que chaque personne a un niveau différent sans doute de surdité, et qu'on n'est pas tous égaux, donc ils ne sont pas tous égaux non plus par rapport au handicap. Comment tu les définis aujourd'hui?
Nous, c'est le public qu'on accueille, c'est les personnes sourdes dites signantes. Alors, elles se retrouvent pas tant sur le niveau de surdité. Si on peut avoir en France, il y a à peu près 10 millions de sourds, si on veut. Mais ça va de la surdité légère, soit de naissance, soit qu'on a acquise parce qu'on était trop proche d'une enceinte, soit parce qu'on est âgé, qu'on a perdu l'audition, jusqu'aux surdités profondes et sévères. Il y a des personnes qui naissent sourdes. Oui. Qui les deviennent par accident, de la vie, maladie, etc. Et dans ces 10 millions de personnes, on estime qu'il y a entre 300 et 600 000 personnes qui sont locutrices de la langue des signes. C'est-à-dire qu'elles ont comme langue première la langue des signes française, comme nous, on a le français oral aujourd'hui. Donc nous, on s'adresse vraiment à ce public donc, qui n'a pas accès à la formation, mais qui par contre a une langue commune. Et une langue, ça permet de véhiculer des contenus de formation, ça permet d'échanger de la culture, de l'information, etc. Et donc nous, c'est l'angle qu'on a pris. Okay. Donc, on a monté un OF, pas sur l'approche handicap, mais sur une approche linguistique qui est justement la langue des signes.
La langue des signes qui est toujours autant apprise aujourd'hui en France, ou il y a eu un déclin sur cet apprentissage-là?
Elle est de plus en plus apprise, okay. La langue des signes, justement parce qu'en fait les sourds, en tout cas sur les jeunes générations, sont moins vus comme des personnes handicapées que comme justement une communauté qui attire la curiosité. Et il y a beaucoup de jeunes qui apprennent la langue des signes, parce que, un, c'est une chouette langue, deux, elle est super pratique quand on est en festival, et trois, ben, ça permet de découvrir enfin, des gens qui, voilà, enfin, une autre culture, une autre façon de voir le monde aussi.
Ça veut dire que toi, avant de monter ton OF, tu t'es mis à apprendre la langue des signes?
Non, non, parce que moi j'ai fait les choses à l'envers, c'est que j'ai appris la langue des signes bah, sur le terrain
Ouais.
en rencontrant des personnes sourdes. Alors, bien sûr, j'étais toujours accompagné d'interprètes au départ pour pouvoir communiquer. Et puis ensuite, bah, c'est apprendre la langue des signes avec les collègues, avec les personnes sourdes que j'ai rencontrées. Donc j'ai moi-même été bah, en situation un peu délicate, c'est-à-dire de ne pas parler la langue de la plupart de mes collègues.
Ouais, donc maintenant ça va aujourd'hui, tu arrives à signer un peu mieux.
Ah oui, alors ça, ouais, ça va plutôt pas mal. Alors, ce qui est
Ok.
assez amusant, c'est que du coup, nous, à Signé Formation, on a une personne qui est en situation de handicap, donc qui est Anastasia. Et parce que Anastasia est arrivée en mars dernier, Anastasia bah, ne connaissait pas la langue des signes, et
Ouais.
du coup, elle s'est retrouvée en situation où c'est elle qui sollicite l'interprète
Ok.
pour pouvoir communiquer avec ses collègues et les collègues aussi.
Ok, ça marche. Et alors, ce qui est intéressant dans ce podcast, c'est qu'à la fois, donc, il y a une partie pédagogique que tu vas nous expliquer juste après, mais tu es aussi fondateur d'OF et on aime bien parler sur l'Union Fée aussi de ces parcours de dirigeants d'OF. C'était comment, il y a 10 ans, de monter ton premier OF et quels ont été un peu les obstacles que tu as connus? Et comment tu t'y es pris justement pour trouver à la fois bah, tes premiers clients, faire tes premières formations, dans quel domaine d'ailleurs tu les as fait, tu pourras nous expliquer un peu. Voilà. Et aujourd'hui, au bout de 10 ans, c'est quoi un peu tes défis?
Oh, c'était une vaste question. Alors, il y a 10 ans, quand on a monté Signé Formation, je l'ai monté avec trois autres associés. Et
Tu
ça,
peux
je
les
pense
citer
que
aussi.
ouais, ça c'est super, quand même super important. Je crois que, bon, alors moi, je suis d'une nature très enthousiaste. Si je l'avais pas été, je pense que j'aurais pas fait la même chose. Et non, c'est simplement, je suis parti un peu bille en tête en me disant voilà, bah, c'est pas normal que ces personnes elles puissent pas se former alors qu'elles sont, bah, enfin, elles peuvent, elles ont du talent, elles savent faire des choses, enfin, juste bien. Et donc du coup, c'était l'idée de dire voilà, on va monter un OF et puis ensuite, enfin, monter des parcours de formation et puis après, on réfléchira à ce qu'il faut pour faire ça. Voilà. Les premiers cours qu'on a montés. Alors, assez étrangement, on n'a pas tout de suite proposé des formations à destination du public sourd,
D'accord.
parce que bah, vu qu'on est les premiers en France à le faire, en tout cas sur cette thématique-là, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas de référence. Donc, du coup, on ne savait pas comment le faire. Il fallait donc trouver des personnes, déjà des professionnels de la thématique, qui soient eux-mêmes sourds ou en tout cas qui soient signants, et ensuite de comment on allait monter justement les parcours de formation, adapter la pédagogie. Donc la première offre de formation qu'on a eue, c'est l'enseignement de la langue des signes française, mais à destination du public entendant. Alors nous, notre rêve, c'est que tout le monde parle la langue des signes. Le jour où tout le monde parle la langue des signes, ben le public sourd a plus de soucis. Voilà.
Ouais.
C'est là,
Et
essentiellement
puis
un handicap
même le
linguistique.
public entendant peut-être, parce que c'est peut-être plus facile de communiquer, en tout cas ça crée peut-être moins de tension de communiquer en signant que de communiquer à l'oral, je me demande des fois.
Oui, alors après, par exemple, les gestions de réunion pour les prises de parole, effectivement, ça demande à être un peu plus attentif, à l'écoute et respectueux du temps de parole de chacun. Voilà. Donc, en tout cas, la première offre qu'on a mis à disposition, c'est apprendre la langue des signes française, plus une offre d'interprétation en langue des signes, donc avec un service d'interprète qui est toujours là. Voilà. Et ensuite, on a monté en 2014 la première solution de formation à destination du public sourd qu'on a proposée, c'est des cours en ligne de français. C'était
D'accord.
pour les personnes sourdes, c'est comment elles amélioraient leur niveau de français. Et là, on avait un dispositif e-learning avec une coach également.
Donc la seule différence, c'est que ton programme est resté le même et tu avais une personne qui signait à côté pour...
Ouais, ah, mais c'était sur le e-learning, en fait, on avait des vidéos, je ne sais pas, par exemple, c'était.
Sous-titré.
Sur le complément d'objet direct.
Ouais.
Et là, on avait une vidéo avec un contenu qui était pensé en fait avec des méthodes de français langue étrangère et qui était entièrement signé, avec une personne qui signait le cours et avec beaucoup d'animation graphique. Donc les personnes suivaient en fait ces vidéos et elles étaient également ensuite, elles avaient un rendez-vous avec une coach.
Ok.
Une coach sourde et qui leur permettait d'approfondir un petit peu les notions.
Et là, tes premiers apprenants, tu les as trouvés comment? Enfin, ça s'est passé comment
Les premiers apprenants,
les
c'était
premières années?
essentiellement en fait des salariés d'entreprise. Parce qu'il faut savoir que les sourds ont un rapport au français qui est extrêmement pas bon. c'est beaucoup de souffrance pour les personnes sourdes. Enfin, le rapport au français, c'est extrêmement compliqué parce que c'est mal appris. Donc, c'est pour ça qu'ils ont un niveau qui est pas exceptionnel. C'est que voilà, on fera un autre podcast sur le drame de l'apprentissage du français pour les personnes sourdes. Donc, en tout cas, une personne sourde en tant que particulier, c'était pas le premier client qu'on avait. C'est bien au contraire. Mais par contre, les salariés d'entreprise étaient assez demandeurs, voire les directions, les managers, tout simplement pour favoriser l'évolution de carrière. Une personne sourde qui était en poste, qui disait, voilà, elle comprenait bien que l'entrave à son évolution professionnelle, c'était sa mauvaise compréhension et maîtrise du français. Donc, très demandeuse, effectivement, de ce type de cours. Et les employeurs, du coup, étaient aussi contents parce qu'ils sont conscients des manques à ce niveau-là. Très simplement parce que bah, souvent, c'est une personne sourde. Si elle reçoit un mail qu'elle ne comprend pas, elle va demander à ses collègues de l'aider. Donc, ça veut dire, bah, du coup, voilà, manque de productivité, etc. Donc, nos premiers clients, c'était des entreprises pour leurs collaborateurs.
Et après, par le bouche à oreille, donc l'OF s'est fait connaître
Ouais,
petit
ça,
à petit.
ouais, c'est comme ça qu'on s'est fait assez connaître en France, parce que du coup, bon, on était les seuls à proposer ça, qu'on avait fait quelque chose de très qualitatif, parce que c'est aussi toujours l'objectif qu'on a, c'est de faire du très qualitatif. Donc c'est vrai qu'on aurait pu commencer plus modestement, mais du coup, on s'est toujours dit, bah, tant qu'à faire, c'est autant aller vraiment sur du contenu de qualité, prendre le temps de bien faire les choses. Donc ça a été aussi un investissement financier qui était assez conséquent. Et donc du coup, on a fait connaître la marque, donc pas signé formation, mais Sourdoué, puisque c'est le nom de code de l'école. On s'est fait connaître de cette manière-là. Et puis, pour faire la transition justement sur l'offre de formation au métier du numérique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on s'est posé un moment et on s'est dit, bah voilà, nous, c'est vrai que les outils numériques, on les maîtrise quand même plutôt pas mal. Du coup, on avait embauché des collègues sourds qui étaient soit infographistes, soit dans le développement web, le web design. Et puis, on trouvait que c'était plutôt sympa, enfin, c'était plus sympa que le français, quoi. Et qu'on est arrivé à un moment en 2016 où les questions, en fait, du handicap, des métiers du numérique, cas secteur sous tension était vraiment des sujets un petit
Oui,
peu
dans
qui
l'air du
étaient
temps,
sur la table et ben, on s'est dit ouais ça peut être intéressant voilà d'aller dans cette direction et puis surtout voilà il y a beaucoup de boulot et on va s'adresser voilà à un jeune public qui va être très demandeur et c'est là voilà qu'on a bâti notre premier référentiel de compétences sur les métiers de web designer.
Toi, avant, tu étais formateur ou tu étais dans quel métier au
Ah, mais
sein
je
de
suis
ton
pas
ancien
du
OEF?
tout formateur au dire des collègues je ne suis je ne devrais pas m'orienter dans cette direction. Alors, par contre, j'ai une bonne compréhension du dispositif de formation. Donc, je dirais que moi, à signer formation, je suis plutôt sur les aspects, on va dire, réglementaires, gestion et stratégie.
Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la pédagogie que vous avez développée, tu l'as faite avec d'autres collègues à toi. Et est-ce que tu estimes aujourd'hui que votre pédagogie, elle est vraiment unique, du fait du public, évidemment? Ou est-ce que, bon, il y a quand même des choses qui sont assez similaires à des formations classiques? Ou toi, tu estimes que vraiment, vous avez développé quelque chose qui est...
Bah, de fait, oui, et ce qui fait, je pense, la particularité de notre dispositif, c'est que, alors, effectivement, on a la partie d'enseignement en face à face, qui est 100% langue des signes. Donc, chez nous aussi, les formateurs sont sourds-signants, parce que ça renvoie aussi des modèles sociaux que les jeunes sourds ont pas souvent. Et avoir une personne sourde qui a réussi, qui est formateur, qui est développeur web, qui est ingénieur système réseau, ça, ils n'ont jamais vu. Il faut savoir que tout au long de leur scolarité, les jeunes sourds, on ne leur envoie que des images d'échecs. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas parce qu'ils sont sourds, etc. Et donc, c'est extrêmement difficile. Donc, ça, c'est le premier point. Mais à signer formation, en fait, c'est de l'appel à candidature jusqu'aux sorties d'école. En fait, tout est accessible en langue des signes. Et ça, c'était super important pour nous. C'est de dire, voilà, un jeune qui a une galère de logement, il peut venir un matin, je sais pas, la lévier bouché, il peut venir dans le bureau, il va poser la question en langue des signes, on va lui répondre et on va régler son problème. Et ça, c'est important. Et qu'ensuite, sur la question purement pédagogique, ça c'est aussi dans le dispositif d'enseignement aujourd'hui, ce qui fait qu'il y a beaucoup de sourds qui sont en échec, c'est qu'en fait les sourds, bah, ils n'apprennent pas comme les entendants. Et ça tient tout
Ça, on a du
simplement.
mal à le comprendre
Ouais.
quand nous-mêmes, on a jamais été confronté à ça. Mais c'est quoi la grosse différence
Bah,
entre
la
votre
grosse
OEF?
différence, c'est que nous, en tant qu'entendants, on a une pensée, en tant que français aussi, on a une pensée qui est très linéaire. On va aligner des mots, puis à la fin, ça fait un sens. Les sourds, eux, en fait, ça tient à la langue des signes. La langue des signes, c'est une langue visuelle et c'est une langue qui est en trois dimensions. C'est-à-dire que les sourds, ils pensent en images. Ça veut dire que nous, voilà, on déverbalise pas, on fait pas des successions de mots, on n'est pas linéaire. Les sauts, eux, sont directement en fait dans l'image, et du coup, c'est une façon d'apprendre qui est différente. C'est-à-dire qu'on va partir. Alors, attention, du coup, je suis pas pédagogue, donc je répète un petit peu ce que dit notre coordinateur pédagogique, donc qui est lui-même sourd. C'est qu'on va commencer par montrer le résultat, à quoi ça ressemble, par exemple un site web. On va montrer le site web et ensuite on va partir à rebours pour on va dire dérouler le process de
Ouais.
création de
C'est
l'interface.
pas simplement comme des fois on s'imagine, comme je t'ai dit, bon, on fera une vidéo, on va la sous-titrer et c'est bon, ils le liront. Mais effectivement, quand tu es sourd depuis ta naissance ou depuis que tu es jeune, t'as pas appris pareil, donc ton cerveau n'est pas câblé pareil. Donc c'est pas simplement sous-titrer une vidéo qui va régler le problème de la plupart de ces personnes-là, en fait.
Ouais, c'est ça,
C'est
mais
pas
c'est
si
vraiment une
simple.
histoire de câble. Hein. Alors, oui, si j'avais su, j'aurais dit tout de suite. Mais effectivement, c'est que voilà, ils sont pas branchés pareil. Donc du coup, en fait, si on part de notre propre point de vue d'entendant, effectivement, on risque de se tromper très souvent. Parce qu'on va pas, leur parler. La question du sous-titrage, de toute façon, elle est quand même fondamentale pour les personnes sourdes. Mais il faut bien comprendre aussi que des fois, c'est pas suffisant parce qu'ils ont un problème de compréhension du français. Et c'est un problème de compréhension du français qui tient au sens des mots. Bon, je pourrais prendre un petit exemple assez facile. Par exemple, la voiture dépasse le camion en langue des signes. On va la faire à l'envers. En fait, la syntaxe, elle est un peu à l'envers. En langue des signes, on va poser un décor. Ensuite, on va poser des éléments, alors soit des personnes, des meubles, des objets, et ensuite on les fait interagir. D'accord? Ce qui veut dire que, par exemple, si je mets la phrase j'arrive, je suis en train de conduire, bah, du coup, on va avoir un problème quand on est sourd, parce que bon, bah, j'arrive et je suis en train de conduire. Donc, train et conduire, du coup, si on est dans une syntaxe inversée, on a le verbe conduire et on a le mot train. Et du coup, en fait, une personne sourde ne va pas
Elle va pas
comprendre parce
comprendre
que
pourquoi
bah,
tu mets le mot train alors que,
pourquoi tu conduis un train, etc. Et on va être un petit peu dans ce phénomène-là. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment le sens du français qui pénalise les personnes sourdes aujourd'hui. En plus, le français, voilà, on est quand même sur une langue qui est extrêmement
complexe.
complexe, voilà, et qui a plein de, voilà, qu'un mot peut dire beaucoup, beaucoup de choses, hein, comme le vert, le vert, le vert. Et du coup, c'est quand même pas la même chose.
Là, aujourd'hui, donc on est en 2022, donc ça fait 10 ans, là, vous fêtez vos 10 ans là, dans quelques jours.
Absolument.
Quelles sont aujourd'hui les formations que vous avez continuées, celles qui sont aujourd'hui disponibles dans ton catalogue?
Alors aujourd'hui, on va avoir trois formations. On est sur un programme aujourd'hui qui va couvrir 3 années. Parce que notre ambition, c'est de proposer à ces jeunes sourds un titre de l'enseignement supérieur. Donc aujourd'hui, on va poser un titre de niveau 6 pour amener les jeunes sur un bachelor. Et donc, il se compose de trois thématiques. On a une première année qui a un tronc commun et qui reste une certification professionnelle de web designer. Où donc là, les jeunes vont avoir les fondamentaux du développement et de la production d'un site internet. Et puis ensuite, ils vont pouvoir se spécialiser au bout de la première année, soit en UX UI designer, sur le côté un peu front, ou alors en développement web.
Ok,
Donc
ça
là, du
marche.
coup, on aura voilà, trois programmes de formation et des jeunes qui pourront soit faire uniquement la première année, parce qu'ils veulent s'insérer directement dans l'emploi par la suite, ou alors qu'ils pourront poursuivre jusqu'à un bac plus 3.
J'en profite, si tu as des étudiants là qui en ce moment cherchent un premier emploi ou un stage, tu pourras me le transmettre et puis on diffusera pendant le podcast aussi,
Ben avec
on
grand
diffusera leur
plaisir.
CV, autant que ça participe.
Ouais, ça marche.
Là, je vois qu'on arrive à 18 minutes.
Eh oui.
Ça passait vite, mais il y aurait tellement de choses à dire,
C'est vrai.
effectivement, on pourrait en faire plusieurs podcasts, je pense. Est-ce que déjà, juste avant de finir, tu as un parcours d'apprenant qui te vient en tête, ou en tout cas qui aujourd'hui a... Alors, c'est toujours un peu les parcours exemplaires, mais bon, c'est toujours bien de les entendre et puis de voir des réussites aussi. Est-ce que tu pourrais nous en citer
Ouais, bah,
un?
ouais, effectivement, il y en a beaucoup, mais il y en a un particulièrement ouais, qui est assez touchant. En fait, c'est un jeune, je crois, sur une des premières promos qu'on a ouvertes. Et donc, c'était un jeune qui venait de Lille, 27 ans. C'était la première fois en fait qu'il quittait sa famille d'ailleurs. Il était toujours chez ses parents, dans une famille où il n'y avait pas la langue des signes.
Ah oui, en plus.
Lui, il avait appris un petit peu sur le tard, hein, je crois, à 17 ans. Et donc, quand il est arrivé à Lyon, je me souviens que ouais, les premières semaines, on sentait qu'il n'était pas bien parce qu'il était loin de chez lui, il était seul,
Ouais.
enfin, c'était difficile. Et on l'a vu évoluer enfin, tout au long de l'année, même physiquement, en fait, il s'épanouissait, c'était assez incroyable. Et il a fini sa formation, il a réussi ses examens. Et il est parti faire le tour du monde pendant un an. Et
Génial.
c'était juste magique parce qu'en fait, je l'ai recroisé, je crois peut-être un an ou deux plus tard. Et il était toujours en voyage d'ailleurs. Et il disait en fait, c'était
C'était sa
incroyable parce
renaissance,
que,
en
ouais, c'est
fait.
ça, ouais, mais c'est
Ouais.
exactement ça en fait. Il est né pendant cette formation parce que du coup, il était avec d'autres sourds. Alors, il était avec des camarades qui étaient de familles sourdes, donc ils sont très bien. Très bien posé au niveau de leur identité. Et là, en fait, il a découvert plein de choses. Et c'était génial. Et ça, c'était effectivement un chouette parcours.
Et c'est ce qu'on disait quand on a préparé le podcast, c'est les formations. La finalité n'est pas toujours de trouver absolument un emploi dans ce qu'on a appris, mais c'est aussi des fois de, comme tu disais, hein, de se redécouvrir ou de se découvrir. Et ben, c'est ce qui s'est passé pour lui.
Absolument.
Donc c'est une belle histoire. Alors parlons un peu de toi, juste pour les questions bonus qu'on fait toujours sur ce podcast. C'est une surprise, hein, je ne te l'avais pas dit, je crois, avant. Il me semble pas. Donc la question qu'on pose, c'est quelle formation, toi, aujourd'hui, tu aimerais dispenser? Alors, même si tu me dis que tu n'es pas formateur, que a priori ce ne serait pas ton métier de cœur, mais et inversement, si tu devais être formé, quel serait le domaine qui t'intéresserait?
Alors c'est vrai moi j'adore en fait enfin enseigner en tout cas j'adore montrer aux autres comment je sais pas bah ouais faire du développement web faire de la comptabilité de la gestion soit sur la prise de parole, alors je suis pas le meilleur, mais en tout cas j'aime bien, enfin j'adore effectivement délivrer du savoir à des tas de gens, mais on me dit effectivement que je devrais pas parce que voilà parce que déjà un, je suis très très long, deux, je maîtrise l'art de la digression à un point qui est juste incroyable.
Ah, bah, tu en as bien sorti, là, ça va, on a tenu le timing, hein, donc
Ouais,
non,
mais parce que je travaille hein, beaucoup, hein, du coup je suis
non. C'est
obligé,
bien.
voilà, et puis après au bout de 10 ans on apprend effectivement qu'il faut faut pitcher en 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Bref, donc ça j'aime bien. Donc un peu sur tous les domaines, enfin tout ce que j'aime bien. Alors moi j'adore jouer aussi aux jeux vidéo, leur montrer, ouais, faire des tutos pour jouer à un jeu vidéo, j'adore ça, etc. Donc je crois que c'est assez large. Après j'ai pas de domaine de prédilection où j'ai vraiment une expertise incroyable dans un domaine. J'ai pas cette prétention-là, mais en tout cas j'aime bien accompagner, puis j'aime bien montrer des fois des gens qui n'ont rien demandé, mais je le fais quand même.
Ça marche.
Ensuite, quelle formation moi-même j'aimerais suivre? C'est ça.
Oui.
Une formation. Alors, à vrai dire, c'était pas une surprise parce que j'étais au courant quand même. Et j'avais proposé de dire ouais, une formation pour faire du macramé parce que c'est un souvenir qui me manque. Quand j'étais en école primaire, j'avais fait du macramé pour ma mère. C'était juste ignoble. Et c'est vrai que je me suis toujours dit ouais, il faudrait que tu apprennes à faire du macramé parce que c'est quand même hyper technique.
Enfin,
Mais
en tout
bon.
cas, quelque chose de manuel où tu te
Ouais.
dis, t'arrives à produire quelque chose
De
de
mes mains,
concret et de tes mains.
non, ouais, mais voilà, dans le domaine manuel, parce qu'effectivement, je
Alors,
suis pas du tout.
ça sera sans doute plus éligible au CPF, hein, ce type de formation, je te préviens.
J'ai cru entendre, c'est
Voilà.
bien dommage, j'aurais dû en profiter avant.
Bon, dans un an, on se revoit et t'auras appris le macramé et
Ouais,
on en reparlera.
ok, ça marche.
Ça marche.